20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On connaît les maisons de curés, les presbytères. La puissance ecclésiastique aurait-elle aussi possédé des châteaux? Le palais des papes vient alors en mémoire, mais pour autant, rien de tel vient d'être exhumé sous la truelle des archéologues dans le Pas-de-Calais, au cœur de la fameuse vallée de l'Aha, bien connue des cruciverbistes. Ce que les archéologues ont découvert à Saint-Martin d'Ardighem est tout simplement une superbe résidence épiscopale du Moyen-Âge. Avant de partir sur le terrain, retrouver les archéologues, Laetitia Dalmo du Centre archéologique du Pas-de-Calais et Guy Flucher, archéologue à l'INRAP, j'ai en face de moi Séverine Hurard, médiéviste et spécialiste de ces lieux de pouvoir. Séverine Hurard, qu'est-ce qu'une résidence aristocratique dans la deuxième moitié du Moyen-Âge? Un château fort?
À peu près tout sauf ça. En réalité, le château fort, c'est une notion qui est un peu compliquée à gérer pour les médiévistes parce que c'est une construction qui appartient au 19e siècle. Donc c'est là un fantasme du 19e siècle sur les formes de l'habitat des élites. Et en réalité, aujourd'hui, c'est une notion qui est quand même très fortement remise en question puisqu'on sait qu'il y a une très grande diversité des formes de l'habitat élitaire parce qu'il y a une très forte diversité sociologique des élites et qu'il n'y a pas un seul groupe élitaire. Il y a une multitude de groupes sociaux qui composent les élites médiévales. Et que du coup, les sites élitaires, les habitats de ces élites sont très divers, expriment de manière beaucoup moins violente le lieu de pouvoir, l'autorité. Et on a des formes très diverses, je le disais, qui sont souvent davantage représentées par des habitats à plat, c'est-à-dire sans relief, sans tourelles exubérantes, sans donjons, sans murailles et courtines, ce à quoi on pourrait associer effectivement l'habitat des collègues autour des évêques de Thérouanne.
Il faut donc s'éloigner de cette image pittoresque et romanesque, encore de nos jours très largement véhiculé. D'ailleurs, le château fort, c'est une hérésie. C'est un château au Moyen-Âge, c'est forcément fort.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de château, souvent on a tendance à désigner des choses qui sont très construites en pierre et qui vont être matérialisées par des remparts, des courtines, des tourelles d'angle et j'en passe. Mais en réalité, cette matérialité très ostentatoire, c'est une expression du pouvoir plus que du caractère militaire. C'est qu'en fait, c'est du discours social. Plus que de la défense. Et ça fait partie des codes de représentation des élites, des grandes élites, celles qui sont en haut de l'échelle sociale, pour manifester une position sociale, un rang, une position d'autorité dans la société. Plus que, voilà, c'est pas nécessairement lié à un exercice défensif et militaire, loin de là.
Partons tout de suite à Saint-Martin d'Ardighem. Sur le terrain, un terrain par essence boueux, novembre oblige.
Guy Flucher, nous voici au cœur de l'Audomarois.
Oui, c'est ça, c'est la région de Saint-Omer.
Vous y fouillez un vaste site médiéval?
Oui, c'est, on peut dire que c'est un vaste domaine qui occupe le fond de vallée en bordure de la rivière de l'Aa. C'est un domaine qui s'étend sur environ un hectare et nous en fouillons en fouille préventive environ la moitié, soit 5000 mètres carrés.
Alors cette vallée est absolument très jolie, bien connue des cruciverbistes, AA, hein, comme il se doit, avec un petit ruisseau, des saules, on est vraiment au fond de la vallée là.
Oui, on est au fond de la vallée, j'irais même plus en zone inondable, parce que nous travaillons les pieds dans l'eau, les fondations des bâtiments sont ancrées dans le substrat, mais dans la nappe phréatique, donc c'est techniquement un petit peu compliqué.
Et alors ce que l'on voit, c'est une énorme bâtisse avec des murs de calcaire.
Oui, il s'agit en fait de la partie résidentielle du domaine. Nous avons fouillé d'abord la partie agricole qui était composée d'une très belle grange et de ses bâtiments annexes. Et là, nous entamons la fouille de la partie résidentielle qu'on pourrait qualifier d'aristocratique vu l'épaisseur des murs et la qualité des sols que nous avons mis au jour.
Comment se positionne cette maison avec donc des murs très imposants, mais aussi des douves, éventuellement un mur d'enclos?
Alors nous avons donc la pièce principale, la grande salle, grande salle de réception, la grande salle ostentatoire du domaine, qui fait 140 mètres carrés, ce qui est quand même une relativement belle surface, qui est doublée par une galerie couloir aussi, qui est pavée de très beaux carreaux. Et l'ensemble est entouré de grands fossés qu'on peut maintenant qualifier de douves, et qui sont en train de se remplir d'eau tout doucement.
Alors là, nous sommes devant la grande pièce, 140 mètres carrés, c'est absolument gigantesque. On est dans l'apparat.
On est effectivement dans une salle d'apparat d'une résidence aristocratique. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le propriétaire. On a des indices assez concordants selon lesquels ce serait une possession des évêques, hein, de Terouanne puis de Saint-Omer. Mais les recherches en archives sont en cours pour confirmer le fait.
Au niveau architecture, tout s'organise autour de cette grande pièce. Après, on aurait une cour, d'autres bâtiments ?
C'est ça. Donc la grande pièce et la grande salle est dotée d'une entrée. Cette entrée donne sur une petite pièce qu'on pourrait qualifier de vestibule et qui donne accès à une cour. Une cour qui n'est pas très grande. Et à la suite de la cour, nous avons un ponton en bois qui permet de traverser les douves pour rejoindre la partie agricole du domaine.
C'est habituel d'avoir une partie agricole dans une maison de seigneur, va-t-on dire ?
On va dire que oui, c'est un grand classique. Hein. Les habitations seigneuriales sont souvent dotées d'une exploitation agricole, de façon aussi à apporter une certaine autonomie au domaine.
Où se trouve la cuisine ?
Alors la cuisine, étrangement, se trouve au-delà des douves. C'est-à-dire que là, on pense qu'il y a eu quand même une vie du site assez longue et que les douves sont peut-être pas l'état primitif du domaine, mais que ça pourrait être un état tardif, donc avec une séparation tardive entre les cuisines et la salle à manger.
Vous avez retrouvé beaucoup de choses dans les douves ?
Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore exploré les douves, aussi pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à gérer la nappe phréatique de façon à pouvoir travailler à peu près au sec. Mais à la fin de l'opération, nous allons sonder les douves régulièrement, et notamment aux endroits stratégiques près des cuisines, en espérant trouver des zones détritiques importantes.
Nous sommes à peu près à quoi, 4 mètres de l'eau. L'eau a retrouvé son côté naturel, dirais-je. L'eau est revenue dans les douves ?
Alors l'eau est revenue dans les douves, mais plus étonnant, on peut remarquer que l'eau de la nappe phréatique remonte aussi à travers les carreaux de pavement et que actuellement la grande salle est à moitié sous les eaux. Ce qui pose évidemment beaucoup de questions sur le niveau de la nappe phréatique au Moyen-Âge et l'évolution du climat, l'histoire de l'optimum climatique médiéval, du petit âge glaciaire. Enfin, il y a beaucoup de choses à creuser de ce côté-là.
Donc une chose est sûre, l'eau est plus haute aujourd'hui.
L'eau est plus haute aujourd'hui, oui.
Nous avons la cuisine, plus loin donc l'établissement rural. Qu'est-ce que vous auriez comme objet de la vie quotidienne de ces gens, de ces résidents ?
Alors pour l'instant, on n'avait pas encore grand-chose. On a l'habituelle céramique, hein, la faune aussi, forcément. Comme nous travaillons aussi en milieu humide, on a quelques objets en matière organique conservée, notamment les chaussures en cuir. Bon, de façon un peu anecdotique, une petite croix pendentif en or qu'on a trouvée à la surface du fossé. Bon, cette petite croix, elle est pour l'instant pas datable, mais elle est constitue un indice supplémentaire du caractère un peu aristocratique de ce domaine.
La céramique doit être bien connue dans la région, la céramique médiévale. On arrive à peu près à dater, à 50 ans près, l'édifice.
Alors, on pourra dater l'édifice quand l'étude céramique sera vraiment aboutie. Simplement, il faut laisser le temps aux spécialistes de procéder au lavage, au remontage, à l'analyse fine des formes, des pattes et des décors, de façon à avoir une chronologie plus fine. Mais bon, pour l'instant, la fourchette très large d'occupation se situe entre le XIIIe et le XVe siècle.
Une telle maison, ça peut durer un siècle et demi ?
Ça peut durer largement un siècle et demi. Les quelques traces que nous avons dans les archives montrent que au moins le domaine agricole a perduré au cours de l'époque moderne. Le domaine apparaît aussi sur les cartes des XVIIe et XVIIIe siècles, mais à l'état de ruine.
Quel est le nom du site ? Est-ce que ce nom aurait du sens par rapport à cette résidence ?
Alors le toponyme précis, c'est la Sens-l'Évêque. La tradition locale en fait la résidence des évêques de Terouanne puis de Saint-Omer. Mais l'étude en archive n'est pas assez aboutie pour qu'on en ait absolument la certitude.
Alors, votre problème, c'est que vous avez des archives martyrs, va-t-on dire ?
Voilà, alors doublement martyr. Le premier événement, c'est la destruction de la ville de Thérouanne en 1553 par Charles Quint. Suite à cette destruction de Thérouanne, le diocèse, le grand diocèse de Thérouanne a été démembré en trois parties, et donc sont nés par la suite les diocèses de Boulogne, Saint-Omer et Ypres, ce qui a entraîné une première dispersion des archives. Le deuxième drame pour ces archives, c'est que celles qui ont pu être sauvegardées et qui ont été regroupées au sein des archives départementales du Pas-de-Calais ont été en très grande partie détruites par la Grande Guerre.
Et les historiens du 19e ont quand même retrouvé des choses.
Alors nous avons quand même la chance que les historiens du 19e siècle ont commencé à travailler sur ces archives, qu'ils ont traduites, transcrites et publiées, en tout cas en partie.
Je reviens sur le fait d'être éventuellement devant un édifice épiscopal. Hormis là, bien sûr, la toponymie, le nom du site, qu'est-ce qui permet de justifier qu'il pourrait y avoir un évêque ici ?
Honnêtement, pour l'instant, rien. Bon, si ce n'est le caractère effectivement très luxueux de la bâtisse, il y a aussi le fait que nous ne sommes pas non plus dans le cadre d'une maison forte, dans la mesure où si même les murs sont très imposants, nous n'avons pas de système de tourelles, pas de système de murs d'enceinte, que les douves ont sans doute un caractère plus ostentatoire que défensif. Donc on sent qu'on est quand même dans une résidence aristocratique, certes, mais pas forcément seigneuriale, ce qui peut constituer un indice que nous sommes dans une résidence effectivement épiscopale et non pas d'un seigneur local.
Alors, essayons de rêver. Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans des douves ? Bien sûr, quantité de céramique, quantité peut-être de cuir, d'ossements animaux, mais aussi peut-être des jeux, des pièces d'échecs, ce genre de choses ?
On aimerait bien, effectivement. Ça va être tout l'enjeu des prochaines semaines de fouilles, c'est de pouvoir sonder ces douves de façon à trouver quand même du mobilier qui pourrait être caractéristique du statut particulier de l'établissement.
Est-ce que ce n'est pas une course contre la montre en ce moment, ce chantier ?
Si, c'est une course contre la montre, du fait que nous sommes effectivement près de l'eau et que la nappe phréatique est déjà très haute. Là, nous sommes à la fin de l'été, nous sommes au moment des basses eaux. Dès que l'automne va être bien engagé, il y a un risque que l'eau monte assez rapidement. Et donc, c'est un petit peu une course contre la montre avant l'arrivée de l'hiver pour pouvoir terminer la fouille dans des conditions à peu près acceptables.
Cette bâtisse, il faut l'imaginer comment ? Avec un étage au-dessus, peut-être deux. Visiblement, il y avait des sortes de colonnes, voire même des colonnades.
Alors la grande salle, effectivement, nous avons deux bases de colonnes qui laissent supposer quand même... Ça se comprend aussi parce que vu la largeur et la longueur de la bâtisse, un plafond et une voûte ne peut pas tenir comme ça simplement en s'appuyant sur les murs. Bon, pour l'instant, nous avons peu d'indices, si ce n'est la largeur des murs, hein, qui laisse supposer quand même une bâtisse très très élevée. Par contre, est-ce qu'il y avait un étage ou non, c'est difficile de répondre pour l'instant.
En tout cas, vous avez une sorte de cheminée monumentale aussi.
Oui, alors c'est une très très grande cheminée qui est semi-encastrée dans le mur, dont la sole est constituée, je dirais, de façon classique de tuiles posées de champs et qui est bordée par un assemblage de calcaire. On remarque aussi qu'il y a eu une réfection, c'est-à-dire que la première cheminée a été rehaussée et qu'une nouvelle sole a été construite 10 cm plus haut.
On va aller voir les carreaux.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
On va marcher sur le dallage avec mille et une précautions. Hop. Laetitia Dalmo, nous sommes au cœur de la grande salle de cette maison aristocratique. Ce que l'on voit, c'est un dallage absolument exceptionnel.
Oui, c'est un dallage qui date du XIIIe siècle. Il est vert et jaune et historié. En fait, j'entends par historié, c'est-à-dire que les carreaux ont été fabriqués selon la technique du décor estampé à engobe. À partir de là, c'est une longue période de travail qui est demandée aux tuiliers, parce qu'en fait, il va passer par la phase d'estampe, où sur son estampe en bois, il va dessiner le motif qu'il veut donner à son carreau, qui va après presser sur le carreau en argile, qui donne de ce fait un décor en contre-empreinte. À ce niveau-là, les creux vont être remplis par une engobe blanche assez épaisse, et ce temps de séchage, en fait, est très très long. Une fois que le carreau est sec, on va gratter vraiment la surface du carreau pour faire ressortir le dessin original. Une fois que c'est fait, on va petit à petit mettre la glaçure et l'artisan va choisir la couleur en fait qu'il veut donner à son carreau. Ici, comme c'est du jaune et du vert, on sait qu'il a utilisé de toute façon l'oxyde de plomb pour le jaune, parce que c'est naturellement jaune, et qu'il a associé de l'oxyde de manganèse pour donner la couleur verte au côté négatif du carreau.
Alors tous les carreaux verts sont verts, il n'y a rien dessus absolument, mais alors tous les carreaux jaunes sont décorés de manière absolument invraisemblable. Qu'est-ce que l'on voit partout ? Il y a des poissons, il y a absolument de tout.
Oui, on se retrouve avec à peu près 19 motifs différents à ce jour. Tout le sol n'a pas encore été dégagé, donc on se retrouve avec plusieurs marguerites, des marguerites cerclées à 5 pétales avec des pastilles jaunes dans les angles, d'autres qui sont à 6 pétales mais le carreau est lui avec un liseré à l'extérieur, des carreaux de nouveau liserés avec des marguerites à 5 pétales. Donc voilà, on voit quand même la diversification et la diversité du tuilier et de l'artisan à mettre en œuvre à décliner certains motifs. On a des aigles, c'est typique dans le bestiaire du Moyen-Âge, des aigles à ailes déployées avec les têtes, ces têtes, nous les nôtres, elles sont à dextre, c'est-à-dire à droite, et il a une queue en trilobe. La gueule est ouverte, certains peuvent avoir des gueules fermées, mais les nôtres ont des gueules ouvertes, et certains sont également cerclés. Les carreaux sont cerclés d'un liseré jaune et d'autres pas. Après, on se retrouve avec des poissons. On a trois petits poissons. Tous les motifs sont dans la diagonale. Après, on retrouve des motifs de chevalier, un épée qui est monté sur son cheval, toujours à dextre, et avec une croix sur son plastron. On retrouve comme motif des fuseaux à quatre pétales.
Et des fleurs de lys aussi.
Et des fleurs de lys, voilà. Des fleurs de lys qui aussi ont été déclinées à sous beaucoup de modèles. On en a qui sont avec des liserés. Certaines ont des feuilles qui sont en forme de crochet, d'autres en forme de S. On en a certaines qui ont des pastilles jaunes au niveau de la queue, d'autres qui n'en ont pas. C'est vraiment un travail très riche.
On va se déplacer vers la cheminée, doucement toujours, pour ne rien abîmer. J'ai vu que là, on avait des chevaliers, donc on a deux chevaliers, ils sont à peu près identiques. Ils tiennent des épées, visiblement un pied traîne légèrement en dessous, l'autre est peut-être dans son étrier. Mais un peu plus loin, là, qu'est-ce que c'est que ce personnage ?
Celui-là, il vient d'être découvert, donc du coup, ce serait peut-être... Un musicien avec une vielle, ou ça reste encore à définir. On pourrait vraiment voir l'instrument arrondi de la vielle ou de la viole de Bagambe avec l'archer. Mais il va falloir encore faire des recherches à ce niveau-là.
Vous avez aussi une sorte de jeu, un carreau unique qui se promène un petit peu par là-bas ?
Oui, c'est une mérelle, en fait un jeu de mérelle, où les enfants ou n'importe quel personnage du Moyen-Âge pouvait jouer avec des jetons. C'est un peu comme un solitaire ou une marelle, on pourrait appeler ça à notre époque.
Alors tout ça forme des panneaux, c'est ça qui était très intéressant. On voit très bien que les carreaux s'organisent en général par quatre, mais aussi par grands rectangles.
Tout à fait, la pièce principale est très bien organisée. On se retrouve face à la cheminée à des agencements qui sont par quatre, des lots de quatre carreaux historiés. Et en fait, c'est comme un damier, en fait, de quatre et quatre, unis et historiés. Alors que sur les extérieurs de la cheminée, on a vraiment des grandes bandes de motifs unis. Ça reste toujours du damier, hein, mais on a des bandes de liaison qui différencie et qui sépare les espaces, en fait.
Est-ce que vous avez des réfections ?
Oui, oui. Il y a quelques endroits où on trouve des réfections qui sont faites avec des carreaux unis rouges, ou d'autres avec des carreaux qui étaient peut-être restés à l'abandon parce qu'ils avaient des traces de bavure ou qui avaient coulé.
Et puis, vous avez un apax, un objet absolument unique, un carreau qui n'a pas été trouvé dans cette salle, mais qui forme un blason.
Oui, on a trouvé un blason formé de 7 macles, c'est-à-dire c'est des losanges évidés qui sont organisés 3, 2 et 1 dans le losange, avec à l'extérieur des animaux, 3 animaux qui seraient plutôt du domaine fantastique. Après, la finition est quand même assez, assez grossière, donc il est difficile encore aujourd'hui de savoir quels animaux étaient représentés à ce niveau-là.
Des sortes de griffons ?
Je ne pourrais pas vous dire, pour l'instant on ne sait pas trop.
Et vous allez rechercher les armoiries ?
Tout à fait.
Donc vous allez tenter de savoir à qui appartient cette maison, si le carreau vient d'ailleurs d'ici.
Si on arrive à retrouver l'armoirie, bien sûr on saura à qui appartenait cette belle maison avec ce sol si beau, quoi.
Est-ce que vous avez déjà vu des parallèles dans la région de tels dallages tout à fait exceptionnels ?
On en a trouvé dans Picardie, à Coucy-le-Château, après à Chaly aussi il y en a quelques-uns, à Fontenelle-en-Mai. Il y a quelques ouvrages qui nous parlent de ce genre de sol bien conservé, à la différence quand même importante, c'est la surface de conservation. Ici, on est quand même sur 140 mètres carrés de pavage conservé, pas dans un état non plus exemplaire, mais quand même de très bonne conservation, alors que souvent, c'est des focus de sol.
Votre travail, ce n'est plus la truelle, c'est l'éponge ?
Ah oui, là, depuis quelque temps, le travail se fait à l'éponge, au seau et à l'eau. Voilà. Donc on frotte petit à petit chaque carreau pour enlever le sédiment qui s'est placé dessus et l'eau qui s'est déposée, voilà, qui salit le carreau.
On peut penser que cela va être démonté par des professionnels comme on démonterait une mosaïque ?
Ça risque de l'être, ça c'est pas vraiment mon domaine, mais si c'est démonté, ce sera pas du démontage roulé comme la mosaïque. Les mosaïques c'est des petites tesselles, donc la surface est quand même plus petite, donc on peut arriver à faire à rouler le sol pour après pouvoir le dérouler. Ici, ce serait plutôt par bandes pour pouvoir les superposer et les replacer après en fonction des photos qui auront été prises de façon zénitale pour pouvoir replacer au mieux.
En tout cas, c'est une découverte extraordinaire, exceptionnelle.
On peut le penser.
De retour en studio et à écouter les archéologues, Séverine Hurard, rien ne semble dans l'architecture et le mobilier spécifié que nous avons bien affaire à une demeure épiscopale ?
Non, sans certainement pas, parce qu'en réalité, ces demeures épiscopales, c'est un site résidentiel qui n'a pas du tout de vocation religieuse immédiate. Et du coup, elle a, je dirais, les mêmes caractéristiques que les résidences des élites laïques. C'est des élites qui partagent des cultures communes assez marquées, qui partagent des pratiques de consommation, qui ont des codes de représentation communs et qui du coup vont chercher à exprimer leur position sociale et leur autorité par les mêmes attributs, notamment architecturaux.
Qu'est-ce que vous pensez de ces décors sur le sol ?
Ça, c'est assez spectaculaire. C'est vrai qu'après, la collègue le disait, ce sont des décors. Il y a un registre iconographique qui est assez classique pour ce type de revêtement de sol. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans des contextes religieux, c'est-à-dire dans des contextes castraux ou dans des contextes abbatiaux, où on a davantage l'habitude de trouver ce genre de revêtement de sol. C'est vrai que sur de l'habitat civil, il est rare de retrouver de telles surfaces de revêtement conservées de cette manière-là. Hein. Ce que suscite cette découverte, quand je vois les photos, je suis assez surprise et je me dis que finalement... Je me demande, et c'est une hypothèse un peu farfelue parce que c'est pas du tout soutenu par la science, mais je me demande dans quelle mesure l'évêque qui fait construire sa résidence de campagne ne profite pas des circuits d'approvisionnement de l'abbaye voisine ou de celle dont il a la charge pour aménager, agrémenter sa résidence personnelle.
Un petit détournement. Ce serait pas le premier.
En tout cas, une façon de profiter des marchés qui sont déjà signés ou qui sont déjà mis en place pour des usages plus collectifs, on va dire.
En tout cas, tout est dans le confort, malgré tout.
Oui, ça c'est absolument. Je pense qu'il y a s'il y a bien une manière de caractériser les cités élitaires, ces habitats des élites, même à la campagne, c'est le degré d'aménagement, le degré de confort de ces ensembles. Hein. Là, on le voit très clairement. Il y a un souci décoratif qui est très marqué. Sans doute aussi une facilité d'entretien. Le carrelage, c'est pas comme le sol de terre battue jonché de sur lequel on a posé des jonchées de litière. On a ici vraiment une demeure très aménagée qui est quand même assez atypique dans l'espace rural et qui doit vraiment très clairement se distinguer hein, par rapport aux habitats environnants. Et puis on peut se douter, alors on le voit, il y a une très belle cheminée qui a été mise en évidence, mais on peut aussi supposer que ces aménagements s'accompagnent de dispositifs de chauffage, de dispositifs amovibles notamment, dont on va pas retrouver la trace archéologiquement. On peut aussi imaginer que c'est une demeure qui profite d'un certain nombre d'aménagements permettant de faire rentrer la lumière naturelle. sans perdre forcément la chaleur. Donc ça, c'est, bon, c'est dans les élévations qui n'existent plus, donc ce sera difficile à démontrer, encore que les collègues mettront peut-être en évidence les éléments relatifs à la présence de verre à vitre. Mais c'est vrai que c'est une demeure qui caractérise bien les pratiques élitaires cette deuxième partie du Moyen-Âge, puisqu'on voit que ce qui importe pour ces élites, c'est moins la notion de défense et de protection et de retranchement que celle de confort d'un site résidentiel dans lequel on va séjourner 2 ou 3 mois par an, dans le meilleur des cas.
On est tout à fait aussi dans l'ostentatoire.
Complètement. Ah bah, ce qui est certain quand on voit la documentation disponible sur ce site, hein, c'est qu'il y a d'abord une salle d'apparat dont des collègues ont parfaitement bien parlé. Du coup, ce séjour campagnard de l'évêque, on voit bien qu'il s'accompagne aussi d'une espèce de volonté d'entretenir les réseaux de pouvoirs locaux et régionaux. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de visiter les édiles locaux, de les recevoir de manière assez ostentatoire, de les accueillir, de manifester sa position sociale et de s'assurer, par l'accueil et la réception qu'on leur fait, s'assurer de la fidélité à l'alliance antérieurement passée. Voilà. Donc c'est aussi une manière de s'assurer les sociabilités locales et régionales que de visiter ces sites secondaires.
Si l'évêque est riche, c'est justement parce qu'il a un domaine. Alors, au Moyen-Âge, on retire sa fortune de la terre.
Oui, bah c'est sûr que les revenus de la terre sont essentiels. Et d'ailleurs, on le voit bien, ce site n'est pas qu'un site résidentiel, c'est aussi un établissement rural, une exploitation rurale dont on tire des revenus substantiels. D'ailleurs, ce site qui est en milieu humide, qui est implanté en milieu humide, à mon avis, il a un sens particulier. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent le cas pour ces habitats élitaires, en particulier quand ils sont liés aux élites ecclésiastiques. Hein, on a souvent, il y a une récurrence de ces implantations en milieu humide parce qu'en fait, c'est une très forte biodiversité qui permet donc l'exploitation des céréales éventuellement, mais aussi des fourrages, qui permet l'exploitation dans des milieux frais à humides, qui permettent une diversification des types de production agricole, sans parler des roseaux, des productions piscicoles aussi, puisque ce sont des élites qui sont souvent habituées à manger du poisson, notamment les vendredis. Et en période maigre pour les jeunes, hein. Et on a souvent, en fait, comme on connaît bien le phénomène pour les abbayes cisterciennes, hein, on a souvent des élites qui sont habituées à un certain type de consommation et qui reproduisent sur les lieux résidentiels les conditions de production de ces consommations, donc le poisson en particulier.
On avait déjà fouillé ce genre de résidence épiscopale ?
Alors, moi, j'en ai pas de connaissances particulières, mais j'imagine qu'on a déjà des occurrences à travers le pays, hein, peut-être pas de cette dimension-là. Après, c'est toujours compliqué, les collègues le disent bien, il est compliqué de faire l'association mécanique entre site d'habitat, site élitaire et statut. C'est-à-dire que sans mention historique, sans la confrontation aux sources textuelles, il est difficile de faire le lien mécanique entre le site et le statut. C'est-à-dire que sans... Alors là, il y a un toponyme, je crois que ça s'appelle la Cour l'évêque, et quelques mentions textuelles qui permettent de faire l'association entre l'évêque et le site. En tant qu'archéologue, si j'avais seulement la donnée archéologique, je ne me permettrais pas du tout de faire le lien entre ce type d'élite et ce type de site.
Le Moyen-Âge a inventé la ville, la Villeneuve, mais elle aurait aussi inventé la résidence secondaire ?
Non, alors j'oserais pas dire un truc aussi, aussi provocateur. Je pense que les résidences secondaires des élites, on les connaît bien, notamment par les archives. Hein, mais aujourd'hui, on a effectivement une fenêtre d'observation assez intéressante sur les pratiques de ces élites à la campagne, sur la manière dont elles restent quand même en partie itinérantes, même pendant le second Moyen-Âge. Et qu'elle profite de domaines dispersés sur un large territoire.
Séverine Huard, pour vous, votre actualité, c'est une soutenance de thèse, de doctorat, bien sûr. Le 15 décembre, quel est ce sujet ?
Alors, elle est consacrée, cette thèse doctorat, à ce que j'ai appelé l'archéologie des élites rurales ordinaires, en assumant l'oxymore et la contradiction dans le terme entre élite et ordinaire. Et donc, elle traite, dans ce cadre-là, je le traite plus particulièrement des franges les plus paysannes des élites rurales. Donc loin des évêques.
Eh bien, nous irons écouter. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Jean-Louis Deloncle et avec la collaboration d'Anne Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.